Deuxième temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire des protestantismes. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les années 60 et 70 et parler de l'accueil fait alors aux réfugiés. Hier, l'historien Patrick Cabanel nous a expliqué la place des protestants au milieu de la Seconde Guerre mondiale à l'occasion de la parution de son livre « De la paix aux résistances, les protestants en France entre 1930 et 1945 ». Il nous a dit comment était né justement pendant cette Seconde Guerre mondiale la CIMAD, le comité intermouvement auprès des évacués. Eh bien, cette CIMAD qui œuvre encore aujourd'hui auprès des réfugiés a évidemment continué à exister après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à nos jours, et elle a créé dans les années 60 à Massy un foyer international qui a reçu beaucoup de réfugiés politiques, en particulier qui fuyaient des régimes dictatoriaux de l'époque. Il y avait là des Portugais, des Grecs, des Brésiliens, des Haïtiens et bien d'autres nationalités qui se sont retrouvées dans ce foyer. C'est cette histoire du foyer de la CIMAD à Massy qui est racontée dans La CIMAD à Massy, une histoire de refuge, par Catherine de Copé et Françoise Camard dans le documentaire de ce jour, avec les témoignages de Monica Chonchol, de Michel Evdokimov, de Geneviève Jacques, de Sonia Laboureau, de Nicolas Nguabidje, de Claire-Lise Hoth et d'Hernan Saavedra. C'est jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin.
Je l'ai toujours, hein, c'est dans mon cerveau enregistré. C'était la première fois que je prenais l'avion. C'était la première fois que je sortais aussi loin. Je partais aussi loin dans un pays où je ne connaissais rien. Dans un pays où on parlait une autre langue, qui n'était pas ma langue maternelle. Dans un pays où on essaye de communiquer, je ne peux pas communiquer parce que là, il y a cette barrière qui s'est faite. La communication, c'est par les mains. Mais je me rappelle, quand je suis débarqué de l'avion, quand je descends, quelque chose qui me marque, c'est l'odeur qui était pas mon pays. C'est les bruits. C'est pas le même bruit que je... quand on nous fait passer par des couloirs, pour moi, c'était tout ça, c'était un cauchemar, c'était un rêve, c'était beaucoup de choses en même temps. Et la seule pensée que j'avais à ces moments-là, c'est de pouvoir téléphoner à ma mère ou à mon père immédiatement parce qu'ils sont restés tout seuls.
La CIMAD à Massy, une histoire de refuge.
Et quand vous arrivez ici, je me rappelle toujours même cette odeur quand on nous fait rentrer dans l'intérieur des locaux de la CIMAD. Il y avait cette odeur aussi qui je ne connaissais pas du tout et qu'il fallait s'y faire.
Comment arriver au foyer CIMAD? Prenez le métro de la ligne de Sceaux au Luxembourg ou à Denfert-Rochereau en direction de Saint-Rémy-de-Chevreuse. Descendez à la station Massy-Verrières. Traversez la place. Devant la teinturie, tournez à gauche dans la rue Max-Dormoy, passez devant la poste et tournez à droite au bout de la rue devant le tabac.
Ils s'appellent Monica, Nicolas, Hernan. Depuis les années 60, plusieurs milliers d'exilés comme eux ont découvert la France ici. Ici, c'est-à-dire au foyer de la CIMAD, à Massy, à quelques kilomètres au sud de Paris. Ce centre d'hébergement pour réfugiés, encore actif aujourd'hui, est devenu un emblème de l'action de ce mouvement né de la Seconde Guerre mondiale. Alors on va rentrer par cette petite porte en bois.
Elle n'a pas changé, c'est la porte de toujours. C'est une porte en bois à l'ancienne avec un bruit formidable. Et puis une fois qu'on passe cette porte, plein de souvenirs. Je trouve que rien n'a changé.
Avant, ici, il y avait l'intendance et le secrétariat. Et le bureau d'en haut, il y avait le directeur. Les autres pièces étaient des appartements. Et donc les deux poumons du centre, c'était l'accueil et puis la cafétéria, plus le réfectoire en fait.
C'est la chanson que tous les Chiliens et tous les Latinos ils la chantaient à l'époque. Au départ, elle est un peu triste. Il parle un petit peu du Chili, de l'Amérique du Sud. Et puis tout le monde la connaît, donc on se mettait très vite à chanter ça. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz.
Fondée en 1939 en France, au début de la Drôle de Guerre, par des protestants, la CIMADE a eu comme première vocation l'aide aux évacués d'Alsace-Lorraine, d'où son nom, qui signifie « Comité intermouvement auprès des évacués ». Les années de guerre poussent la CIMADE et ses acteurs à témoigner et à résister face à la déportation des Juifs, organisée par l'État français. Cette période orientera durablement l'action de la CIMADE, qui se mobilise après la guerre pour s'occuper des prisonniers, travailler à la réconciliation France-Allemagne et aider à l'intégration des exilés. Pour répondre aux besoins de ces populations, la CIMADE ouvre différents centres d'accueil en France et notamment, en 1947, un foyer pour étudiants étrangers à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine. Ce lieu, ancêtre du centre de Massy, doit son existence au théologien orthodoxe Paul Evdokimov, d'origine russe.
Lorsque mon père est arrivé à Paris dans les années 20, évidemment, il a pris contact avec un certain nombre d'exilés réfugiés russes, réfugiés de la Révolution. Il prend contact avec les différentes associations russes, qui tous étaient orthodoxes, n'est-ce pas, pour maintenir l'esprit, pour ouvrir des paroisses orthodoxes. La majorité de l'immigration russe s'est installée à Paris. Donc c'est dans cet esprit, je suis apatride, mais ma patrie c'est partout dans le monde. C'est un petit peu cela, je crois, son esprit. Et lorsqu'il est entré à la CIMADE, à ce moment-là, il a pu, avec ses collègues à la CIMADE, installer le foyer d'étudiants dans une maison avec un grand jardin. C'est dans ce jardin qu'on a pu construire une chapelle, dans une maison donc sur la route qui va de Paris à Sèvres, et c'est là que s'est épanoui ce foyer d'étudiants. Je crois que pour ma formation, mon éducation, ça a été très important d'apprendre que nous vivons dans un monde, nous ne sommes pas fermés dans une nation.
Combien de personnes étaient hébergées à Sèvres ?
Il y avait entre 40 et 50 étudiants et étudiantes. Il y avait des étudiants, surtout d'Europe centrale, des étudiants qui étaient émigrés à cause des systèmes totalitaires, en particulier communistes, bien entendu, qui régissaient ces pays. Il y avait des Tchèques, des Slovaques, des Russes, il y avait des Roumains, des Serbes, et puis il y avait des Espagnols et des Portugais venant d'Angola. Au début, ce côté association entre protestants et orthodoxes pour s'occuper des misères dans le monde, c'était quelque chose d'extrêmement important. C'était un esprit fraternel qui nous unissait. À une époque où les esprits étaient un petit peu déroutés. C'est-à-dire, il y a eu la guerre, il y a les années d'après-guerre. Où est-ce qu'on en est ? Quelle est notre culture ? Quelle est notre civilisation ? Quelle est notre religion ? Et c'est l'époque où vraiment les liens entre églises s'affermissait de plus en plus. Il y avait des signes de foi chrétienne. Tous les soirs, il y avait une prière du soir.
Très ancré dans son identité protestante, on trouve de nombreux pasteurs dans ses rangs, la CIMADE des années 50 s'affirme néanmoins comme une organisation ouverte et indépendante des institutions religieuses. C'est le sens de l'œcuménisme développé au centre de Sèvres avec les orthodoxes. Au début des années 60, la CIMAD est contrainte de fermer le foyer de Sèvres sous la pression de la municipalité qui convoite le terrain. Ayant trouvé une opportunité à Massy, dans l'Essonne, l'organisation décide d'y déménager son foyer d'hébergement. Le nouveau complexe ouvre en 1964. Nicolas Nguabigé, réfugié zaïrois, est arrivé au centre de Massy en 1980. Sonia Laboureau en est la directrice depuis 8 ans. Aujourd'hui, c'est le même bâtiment moderne de 80 chambres, construit en 1962, qui héberge les réfugiés. Le grand terrain arboré abrite aussi un ancien pavillon de chasse chargé d'histoire. Nicolas Nguabigé, la maison ancienne est une maison en fait du XVIIe siècle qui appartenait à un historien.
Fustel de Coulanges, qui a vécu ici, qui est très connu à Massy. Il y a même des amis de Fustel de Coulanges qui ont organisé des fois ici de rencontres et pour évoquer son histoire. Voilà, donc on est quand même fiers d'être dans la demeure, l'ancienne demeure de Fustel de Coulanges.
On voit là-bas, c'est un terrain de sport.
Le terrain de sport est là-bas au fond de la cour. Bon, c'est un lieu qui est très rudimentaire, mais qui a été aménagé par la suite. Et les gens jouent pas au ping-pong, mais au basket et au foot, le mini-foot.
Sonia Laboureau, on a quand même la chance d'avoir un espace vert très important ici.
Oui, un espace, un parc magnifique. Et c'est vrai que c'est un lieu de rencontre aussi pour les résidents, mais aussi avec l'extérieur. On organise pas mal de manifestations dans le parc. C'est un lieu assez magique et on est en train justement de monter un projet de jardin solidaire pour pouvoir faire profiter les habitants de Massy et cultiver ensemble.
Geneviève Jacques, quel a été votre premier contact avec le centre de la CIMAD à Massy ?
Mon premier contact était en septembre 1968, vous voyez. Je venais à Paris pour mes études dans le domaine économique, après avoir eu une maîtrise de maths, et je venais faire des études. Et je me suis installé au centre de Massy parce que je venais d'une expérience qui m'avait tout à fait bouleversé dans un camp pour réfugiés indochinois, ou plus exactement pour rapatriés d'Indochine à Sainte-Livrade de la CIMAD. Donc j'étais déjà dans le monde de CIMAD que j'avais pas envie de quitter. Et je suis donc venu m'installer, alors comme étudiante à Massy en 1968.
Donc vous étiez à la fois étudiante et bénévole, c'est ça ?
C'est ça, j'étais étudiante et ça a été la caractéristique de toute mon séjour à Massy, c'est que j'ai été, à cette époque-là, j'étais, on va dire, bénévole à la CIMAD. On n'employait pas trop ce mot qui faisait un peu charitable, etc. On disait plus volontaire, engagé, voilà.
En 1968, quand vous arrivez au centre de Massy, le centre ressemble encore un petit peu à ce qu'il était à Sèvres, donc là où il est né.
Tout à fait. Celui qui est devenu mon mari, André Jacques, lui a pris la direction du centre de Massy au mois d'août 1968, avec comme mission, qui lui avait été confiée par la CIMAD, de transformer ce centre d'un centre d'étudiants, rencontres interculturelles, en un centre d'accueil pour réfugiés, qui était beaucoup plus dans la vocation de la CIMAD, dans les orientations de la CIMAD. Et il a pris ses fonctions à partir donc du théologien orthodoxe Paul Evdokimov, qui avait dirigé le centre de Sèvres, donc créé après la guerre. Et puis, quand ce centre avait été transféré à Massy, dans les locaux Fustel de Coulanges, il a continué à le diriger avec tout à fait cette idée de rencontre Est-Ouest, puisqu'il y avait un certain nombre de gens en provenance d'Europe de l'Est qui étaient de confession orthodoxe. Donc c'était aussi un lieu interreligieux un petit peu. Cette orientation qui avait eu du sens dans les années 50 et 60 apparaissait moins pertinente en 1968, et devant tous les bouleversements du monde et les bouleversements aussi internes à la CIMAD, il avait été décidé de le transformer dans un lieu qui serait plus un lieu d'accueil et d'accompagnement de réfugiés.
Il va, il va, nous avons.
Je vais, tu vas.
Nous allons, vous avez. Vous allez.
Nous
allons.
Nous avons. Vous allez. Il.
Dès la période où André Jacques est directeur du centre, Claire Lizotte, l'ambiance est moins à la religion, contrairement à ce qui se passait au centre de Sèvres.
Tout à fait. Il n'y avait plus, je crois, autant que je sache, de culte ou de prière matinale. Je pense que André a déjà introduit une atmosphère que Serge n'a fait que poursuivre, d'un centre laïque, ouvert, mais non, sans aucune appartenance chrétienne. Dans aucune pratique, du moins. Mais par contre, ouvert sur la commune, les responsables locaux, tout ce monde vivait, savait que ce centre existait et a soutenu. Au niveau de Massy, ça a été un moment important pour les habitants.
Comment êtes-vous entrée à la CIMAD ?
Et j'y étais engagée comme secrétaire d'André Jacques. C'était en octobre 1974. Alors, j'ai fait effectivement fonction de secrétaire pendant un certain nombre de mois. Puis, je me suis aperçue assez vite qu'au fond, ce n'était pas vraiment suffisant pour m'occuper dans cette maison où se passaient tant d'autres choses passionnantes. Et j'ai assez vite demandé à faire partie du service accueil des réfugiés. J'ai passé 15 années tout à fait, comme beaucoup marquées, ma vie et celle de notre couple. Je suis arrivée juste au moment du départ des Grecs. Il y a eu avant, bien sûr, les réfugiés de l'Est. Les Brésiliens sont arrivés assez tôt parce que le premier coup d'État du Brésil, c'était 64. Donc, dès les années 64, on a eu des Brésiliens. Ce n'était pas encore une grande vague, mais c'était le premier pays latino-américain. À chaque période a correspondu, au fond, un public un peu spécifique.
On est arrivé au premier étage de l'ancienne maison. Nicolas Nguabigé, quelle était l'occupation de cette grande pièce avec une belle poutre au milieu ?
C'était le bureau du directeur.
C'était le bureau d'André Jacques, le bureau de Serge Gilles.
Pierre Demeret. Patrick Pichot.
Sonia Laboureau, c'est votre
et
bureau
actuellement ?
Et non, moi j'ai choisi un bureau plus petit. C'est en fait une pièce qui sert maintenant pour l'intendant comptable et qui sert aussi de salle de réunion pour l'équipe.
Moi j'ai surtout Serge Gilles présent. Dans ma tête, parce que c'est vrai que c'est ici où on le rencontrait souvent quand on venait discuter, même si on le voyait par ailleurs et que ça nous arrivait de manger avec lui et de prendre le petit déjeuner, enfin. Mais je vois Serge, c'est vrai.
Tribune libre, la CIMAD, enregistrement magnétique C00859, diffusion le 17 juin 1975, séquence 1, première.
Je suis d'Haïti. À ne pas confondre avec Tahiti ou Hawaï, pays des tontons macoutes et des léopards, gens bien connus pour leur facilité dans le maniement de la gâchette.
Serge Gilles, premier réfugié haïtien du centre, arrivé en 1969.
Pays dont les dirigeants appliquent une loi condamnant à la peine de mort tout opposant. Pays dont les dirigeants ont osé pratiquer à la face du monde en 1972, officiellement, un commerce de sang et de cadavres. Commerce qu'il pratique encore clandestinement de nos jours. Pays dont les dirigeants ont osé forcer à l'exil 1 million d'êtres vivants sur 5 millions. Pays où les dirigeants font n'importe quoi et n'importe comment. Il a valu à des milliers de patriotes haïtiens la terre de l'exil. Ils sont un peu partout, en Afrique, en Europe, en Amérique latine, en Amérique du Nord, etc.
Pouvez-vous nous dire, Monsieur Serge Gilles, comment vous avez vécu votre exil en France ?
L'exil, s'il faut en parler, n'est pas facile à vivre, surtout dans les premiers moments, à cause des problèmes d'adaptation que cela pose. Il faut se chercher un emploi, se chercher un logement. S'il faut que je parle de mes expériences personnelles, je dirais que de 1969 à 1971, j'ai travaillé tantôt comme plongeur, tantôt comme soudeur, tantôt comme déménageur, jusqu'à ce que la CIMAD m'ait accordé une bourse, ce qui m'a permis de terminer mes études
à l'Institut des sciences politiques de Paris.
La façon d'aider, ça a été, alors, d'une part, d'essayer de trouver des bourses. Et à l'époque, la CIMADE avait un service bourse important pour des étudiants du Sud. Et donc, un certain nombre qui avaient des cursus qui correspondaient obtenaient des bourses. Et puis, on essayait de se débrouiller avec la solidarité locale, régionale, pour essayer de financer ou de contribuer au financement de leur séjour à Massy. Mais c'était très difficile et le foyer était très, très déficitaire. Et il n'y avait aucune aide publique là.
Les étudiants qui étaient à Massy quand vous arrivez en 68 n'avaient pas le statut de réfugiés, n'avaient pas l'asile politique.
Pas du tout. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'en 1968, la France n'avait pas signé les accords de Bellagio qui ont élargi la possibilité d'accès à la protection internationale sous la Convention de Genève à des non-européens et donc ne pouvait avoir légalement le statut de réfugié que des gens en provenance d'Europe. Ce n'est qu'en 71 que la France ratifie. Et donc ce n'est qu'à partir de 71 que des gens en provenance du Sud, on disait le tiers-monde à l'époque, ont pu bénéficier d'une protection internationale de la Convention de Genève. Donc il fallait trouver des financements pour l'hébergement, de la solidarité pour tout ce qui est vêtements, etc. On était dans du bricolage précaire jusqu'à l'arrivée des Latino-Américains où là, il y a eu la mise en place de dispositifs d'État.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido de la Junta de Gobierno Militar. Justo. La situación de conmoción interior que vive el país. Y lo dispuesto en el artículo número 77 de la Constitución Política del Estado. Libro primero. Título tercero del Código de Justicia Militar. Declárase. A partir de esta fecha, estado de sitio en todo el territorio de la República.
Interactualité, 7 novembre 1973.
À l'issue du Conseil, le ministre de l'Information, M. Jean-Philippe Leca, a rappelé que la France avait pris en charge des dizaines de réfugiés chiliens.
Le gouvernement français les a pris en charge lorsqu'ils se sont présentés dans son ambassade, en a assuré le transport vers la France, et en liaison avec le Haut-Commissariat aux réfugiés, en assure actuellement les conditions matérielles de vie lorsque c'est nécessaire. Tout ceci n'est pas nouveau, c'est la tradition française, mais dans cette affaire du Chili, sur laquelle il a été dit beaucoup de choses, et où la position du gouvernement français a parfois été très critiquée sur le fond des choses, il est bon, je crois, que l'opinion publique prenne conscience que nous sommes restés fidèles à nos traditions de droit d'asile des réfugiés politiques. Et au total, nous accueillons beaucoup plus d'une centaine de réfugiés chiliens, dont certains sont parvenus dans notre pays par leurs propres moyens.
Et que deviennent les Chiliens qui sont arrivés à Paris?
Eh bien, écoutez, ils ont le statut de réfugiés politiques, ils sont étrangers protégés, vivant en France, et nous souhaitons que, comme dans le passé, nombreux autres réfugiés politiques, ils trouvent dans la France une terre d'asile accueillante.
Geneviève Jacques, vous avez assisté à l'arrivée des premiers Chiliens en France.
Oui.
Est-ce que vous en avez un souvenir précis de ce moment, de l'arrivée des Chiliens après le coup d'État?
Nous savions ce qui se passait au Chili, bien évidemment. Et quand on nous a annoncé l'arrivée du premier avion à Orly, nous étions à Orly avec André Jacques. Je pense qu'il y avait des gens de France Terre d'Asile aussi. Et nous étions au premier avion. Je m'en souviens comme si c'était hier, parce que nous attendions de voir débarquer voilà des gens. Vous savez, les images qu'on avait à l'époque, c'était des images en noir et blanc de Pinochet, caricature du dictateur, de militaires casqués, de chars, d'avions qui bombardent la Moneda. Enfin, c'était toutes ces images. Et on s'attendait à voir des gens complètement traumatisés. Donc, on a vu débarquer d'abord les premières classes. C'était le mois de novembre 1973. Et débarquer des Chiliens en manteau de fourrure venant faire du ski en Europe. On était absolument sidérés. Et ensuite sont arrivés, parce qu'on les avait mis au fond de l'avion, les réfugiés. Mais c'était un vol Air France normal, et où se retrouvaient dans le même avion des gens qui avaient probablement applaudi le coup d'État de Pinochet et ceux qui en étaient victimes?
La seule personne qui m'a marqué, c'est André Jacques. Et André Jacques, il était là.
Hernán Saavedra.
Il était là, et je me rappelle parce qu'il avait ses cheveux blancs, qui étaient toujours très bien coiffés, très bien habillés. C'est quelqu'un qui était vraiment très soigneux. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné. De voir un homme comme ça, avec une énergie, je lui disais, mais c'est formidable. Je ne pouvais pas parler trop avec lui, parce qu'il était occupé à s'occuper placer tout le monde. Et après, il y avait d'autres administrés qui nous aidaient, voilà.
Et donc, vous êtes arrivé dans le local de la CIMADE rue de Paris ?
Rue de Paris, à Massy.
Voilà. À Massy, ouais, directement. Alors, vous fuyez le coup d'État d'Augusto Pinochet ?
Exact, voilà. Pour moi, ça a été très dur parce que, à l'époque, on s'imaginait pas qu'on pouvait avoir quelque chose d'aussi dur, aussi difficile.
Pourquoi la France à ce moment-là ?
Pourquoi ? C'est vrai que le Chili, à l'époque, il y avait énormément des Français qui, et entre autres, moi, je connaissais quelqu'un, une avocate française, qui nous a beaucoup aidés. On est arrivé le soir. Il faisait très froid, on venait d'arriver d'un pays qui est chaud, on débarque à la CIMADE et ils nous ont dit, voilà, vous avez une pièce pour 3 personnes ou 4 personnes et vous allez vous installer là et puis on verra le lendemain. Quand on est arrivé, donc on était totalement décalé. On venait avec un décalage des 7 heures, à peu près, aussi 6 ou 7 heures. Et donc, quand on est arrivé, c'était la nuit. Pour nous, c'était pas la nuit, c'était la journée. Donc, vers 5 heures du matin, 6 heures du matin, on commençait à avoir sommeil. Et donc, on dormait jusqu'à... quelqu'un, il venait nous chercher pour aller prendre le petit déjeuner, mais on était complètement décalés. On n'y arrivait pas assez calés dans la vie du centre. Et le premier jour, c'est vrai que on comprenait rien du tout. Hein. On parlait entre nous, on savait pas qu'est-ce qu'on allait faire. On attendait, mais on savait pas qu'est-ce qu'on attendait. Voilà. Et on est arrivé avec des personnages, des jeunes, et comme moi, qui on n'arrivait pas à s'adapter. On n'arrivait pas à comprendre. On essayait de communiquer, mais on n'arrivait pas. Et des petit à petit, on commence à comprendre qu'il va falloir s'intégrer. Et on avait des angoisses. Des angoisses, des fois, la nuit, on avait... parce qu'en règle générale, presque tous, moi, j'étais prisonnier politique. Donc, quand je suis sorti, automatiquement, je suis parti immédiatement vers la France. Il y avait un jeune homme qui avait 17 ans, à peu près, et qui en était dans la même chambre. Et ces garçons-là, toutes les nuits, ils se mettaient à pleurer. Et à tel point qu'ils nous faisaient pleurer à tout le monde. On savait pas qu'est-ce que... on n'avait pas la famille, on avait rien.
Vous avez vécu presque en vase clos pendant un an ?
Oui, tout à fait. Au bout d'un an, voilà, on était prêts presque pour sortir. Et c'est là qu'on commence déjà à s'élancer, à aller prendre le train à Massy, d'aller à Paris, etc. Parce qu'au départ, c'était vraiment pas possible. C'était, je me rappelle, à un moment donné, André Jacques, il avait organisé plusieurs rencontres avec des Espagnols. Et c'est grâce à ces gens-là, ces Espagnols qui étaient des réfugiés aussi politiques, ils nous sont mis un peu au point à nous dire, voilà, le Chili, laissez tomber. C'est pas la peine d'y penser. Maintenant, c'est ce que vous allez faire, c'est apprendre le français. Pour nous, on était un peu choqués parce qu'on disait non, nous, on va retourner très très vite. Nous, on veut pas rester ici. C'était une angoisse terrible, hein, terrible.
Paroles plurielles émanées de diverses sensibilités, mais mobilisées pour dénoncer la dictature. La répression, l'impérialisme, le racisme, la haine, France, Argentine, Pérou, Uruguay, Ghana, Centrafrique. Des mots durs et vrais, d'une vérité sans tache. Ils disent le mal de vivre. Écoutons Nazim Hinket. Et pour nous dépouiller plus facilement, plus tranquillement, il ne met plus la chaîne à nos pieds, mise à la racine de notre tête, ma bien-aimée. C'est peut-être depuis la racine de la tête qu'il faut commencer à être libre, c'est-à-dire à penser. Joachim, porte-parole du comité des résidents,
1979. Desde lo de Valderrama sale cantando la noche. Desde lo de Valderrama.
Chambre 81.
C'est ça. C'est une chambre typique de 9 mètres carrés avec un mobilier assez sommaire, un lit, une étagère, une table.
Sonia Laboureau.
Un petit coin lavabo et puis un placard pour pouvoir ranger un maximum d'affaires parce que les personnes arrivent souvent avec, avec pas mal d'effets personnels. Et puis un petit frigo aussi pour pouvoir stocker de la nourriture. Chaque chambre a une vue sur le parc. Le bâtiment est organisé de telle manière que la vue qu'on a donne sur l'enceinte, sur le parc.
Nous, on n'avait pas de frigo à l'époque.
Non.
Et quand on arrivait à acheter un fromage, un produit qui avait besoin d'être gardé au frais.
Monica Chonchol.
On l'accrochait aux fenêtres avec le sac. C'était notre frigo camping, on va dire.
Commune, hein. Il y avait le frigo commun.
Oui, oui, mais moi je m'en souviens qu'on en avait dans toutes les fenêtres. On accrochait. C'est marrant. En tout cas, moi, elle me semble. Mais on avait pas fait, on a plein de souvenirs. Sonia, toi, tu disais, les gens arrivaient avec beaucoup d'affaires, mais moi, à l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup d'affaires. On avait l'impression d'avoir une chambre vide, parce que... Enfin, moi, quand j'ai quitté le pays, j'avais rien sur moi. Et donc, du coup,
La plupart des réfugiés venaient
les mains vides. On arrivait les mains vides. Ouais. C'était clair. Moi, je suis arrivée en octobre 78 et j'arrivais de l'Argentine, de Buenos Aires. En 76, il y a eu un coup d'État en Argentine avec une dictature très cinglante et très dure qui s'est mise en place. Et j'étais touchée comme des milliers de personnes et j'ai pu échapper. Puisque quand ils sont arrivés chez moi, les militaires, moi, je n'étais pas chez moi.
Vous aviez quel âge à l'époque ?
J'avais 21 ans à l'arrivée en France. Quand je suis arrivée à Orly, tout simplement, j'étais accueillie par ma sœur et mon beau-frère, qui étaient déjà résidents au foyer de la CIMAD, qui m'ont amenée tout de suite ici. Et... Je garde des images du style croiser des gens dans les couloirs qui me disaient bonjour, ça va ? Et que je ne parlais pas un mot de français. Et la seule chose qu'on m'avait dit, c'est quand on t'a dit ça va, tu réponds ça va. Donc j'étais prise en charge tout de suite par Serge Gilles, à l'époque le directeur du foyer, par Betty, on l'a nommée comme ça, sa femme, qui était aussi à l'administration du foyer, et par Madame Pascaline, qui était aussi dans l'administration et qui était notre grand-mère, qui nous accompagnait dans toutes les démarches administratives, qui était très compliquée, et en plus, quand on ne parlait pas français, c'était d'autant plus difficile. Donc voilà.
Quel a été votre parcours administratif, si je puis dire ? Est-ce que vous avez obtenu l'asile rapidement, facilement, grâce à la CIMAD ?
Quand on est arrivé, on s'est aperçu qu'on avait tous les papiers de réfugiés politiques. C'était un récépissé que, voilà, pour nous, on l'a gardé. Ils nous ont dit, voilà, il faut garder ça. Et parce que ils vont vous demander partout.
Mais vous les avez eus tout de suite, ces papiers ?
On les a eus immédiatement, oui, oui. Après, c'était le parcours, attention, après, c'était le parcours d'aller chercher la carte des travails, faire les démarches pour la sécurité sociale, et faire des démarches administratives pour avoir au moins s'inscrire dans une banque. Après, c'était pour chercher aller à l'université aussi, parce que moi je voulais reprendre mes études, donc... voilà, tout ça, ça a été et pendant 2 années assez bien chargé, de toute façon, pour nous tous, hein, de toute façon.
Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Kader. Aujourd'hui, c'est la météo de l'Europe. À l'Espagne, Madrid... Non, c'est... attends. Madrid, 26 degrés. À Barcelone, 25 degrés. À la France, Toulouse, 15 degrés.
Pour répondre à tant de difficultés, Paris, la CIMADE a mis sur pied tout un dispositif que l'on pourrait décrire ainsi. 5 personnes sont chargées de l'accueil de ces réfugiés et autant que possible dans leur langue.
André Jacques, FR3, 6 juin 1975.
Mais comme se posent à eux des difficultés d'ordre technique ou plus spécifique, nous pourrions dire, problèmes administratifs, problèmes juridiques, problèmes de langue vivante, d'orientation universitaire, recherche de bourse, émigration, hébergement, nous avons également organisé des services techniques. L'un d'eux, je le prends comme exemple, héberge au foyer international de Massy, au sud de Paris, 100 de personnes, avec tout ce que cela représente d'attention quotidienne aux problèmes des réfugiés.
Et au revoir, bonsoir.
Très bien. Vous gardez les fiches et vous avez vu à droite, là, les icônes ?
Oui.
Tout est inscrit, là, d'accord ?
Ensoleillé, le premier.
C'est ensoleillé, ça. Après, vous avez peu nuageux.
À chaque réfugié correspondait une forme de prise en charge qui se traduisait en une somme, je m'en souviendrai plus, puis ça serait en francs de toute façon, pour l'organisme qui a accueilli, hein, pour les frais d'hébergement, etc. Et puis, un petit pécule leur permettant de se mobiliser, d'acheter leur ticket resto, etc. C'était très, très modeste. La prise en charge officielle comprenait, outre ce pécule quotidien, le droit à des cours à l'Alliance française ou à des cours de français, mais dans des institutions, et à une protection maladie. Voilà, c'était tout ça qui a été acquis à cette époque-là, donc grâce à un petit peu la coopération entre les associations et les services de l'État. Beaucoup de réfugiés allaient à l'Alliance française, et la CIMADE s'est spécialisée sur ce domaine de l'apprentissage du français langue étrangère, essentiellement à partir de l'arrivée des Vietnamiens.
La vague de réfugiés en provenance d'Amérique latine marque un tournant dans l'action de la CIMADE. Mobilisée dans les pays d'origine, grâce à son réseau protestant international et à son implication dans le Conseil œcuménique des Églises, l'organisation se retrouve au cœur de l'action. En France, elle fait pression avec d'autres associations sur le gouvernement pour une réelle prise en charge des réfugiés et se voit confier la responsabilité d'une partie de l'accueil. Devenue acteur de premier plan, la CIMADE traverse une période de grands débats internes et se structure pour accompagner ses évolutions. Deux nouveaux services verront ainsi le jour, celui du développement en 1971, suivi en 1975 du service de défense des droits de l'homme, dirigé par André Jacques. Comment s'est traduit l'arrivée des Latino-Américains à Massy, Geneviève Jacques ?
par une libération la plus rapide possible des chambres pour pouvoir y mettre des réfugiés latino-américains. Et progressivement, les chambres ont été réservées, qui se libéraient, ont été réservées pour les réfugiés latino-américains. Et il a été très rapidement complet, bourré.
Est-ce que l'ambition du centre de Massy, donc du centre de la CIMADE de Massy, a changé à ce moment-là? C'est-à-dire que c'était plus l'idée d'une interculturalité, mais un mélange d'action politique et de protection politique. Qu'est-ce que c'est devenu?
C'est-à-dire cette dimension politique, est vraiment, elle est venue du type d'accueil que nous avons voulu faire. On a rencontré, on recevait des gens qui, dans leur très grande majorité, avaient eu des responsabilités politiques ou syndicales ou sociales. C'était ça, le profil des gens qui se trouvaient dans l'ambassade de France ou qui sont arrivés comme réfugiés. Et en les rencontrant, en les écoutant, on a tout de suite compris que si leur préoccupation était certes d'imaginer un futur en France et rester dans leur tête de façon très prioritaire la situation dans leur propre pays. Et donc, nous avons compris qu'un accueil solidaire de ces personnes devait les considérer dans la totalité de ce qu'ils étaient. Pas simplement des gens qui viennent demander une forme de protection, mais qui doivent être considérés aussi dans tout leur parcours. L'exil, c'est un échec. C'est un échec de tout leur projet, de tout leur engagement. Et certains avaient payé très cher cet échec des prisons, etc. Et donc, toute forme de reconstruction passait aussi pour eux par la poursuite d'actions solidaires. Et là, ils nous ont sollicités pour que nous soyons aussi partie prenante avec eux. Et c'est ce que nous avons fait, et à Massy, en faisant de ce centre un lieu d'accueil, d'échange, de débat, où ils avaient la parole, où on pouvait échanger sur des questions politiques, des questions concernant l'Amérique latine, concernant les engagements. C'était pas facile tous les jours, hein, parce que ils partageaient pas tous les mêmes orientations politiques. Nous étions dans une période très très politisée, où la tyrannie des petites différences là pouvait prendre des effets extraordinaires entre les pro-maoïstes et les pro-staliniens. Je vous dis pas. Mais indépendamment, sur le fond, il y avait tout un témoignage qu'ils essayaient de donner en France sur ce qui se passait dans leur pays. Et nous avons été non seulement attentifs à ça, mais vraiment solidaires, et nous avons favorisé autant que possible ça.
Alors, si on revient à vous, Claire-Lise Hoth, oui. Quel était le lien dans ces années 70 entre la CIMADE et l'action politique? Parce que finalement, le centre de Massy a été un petit peu le lieu de cette évolution.
Oui. Alors, on a appelé la CIMADE, le premier président l'appelait la cavalerie légère de l'Église. C'est-à-dire, c'était des gens qui allaient sur le terrain et qui rapportaient la réalité pour un peu sensibiliser les chrétiens à ce qui se passait. Alors, l'aspect politique, comment est-ce qu'on peut dire qu'avant nous étions des charitables et que maintenant nous sommes des politiques? Est-ce que ce n'était pas une action politique d'aller dans les camps d'internement, savoir ce qui se passait, même sous prétexte d'y apporter de la layette? On était là pour observer, pour dire après, voilà ce qui se passe. Et quand on a pu donner l'alerte, quand on a vu qu'on partait vers les centres de regroupement, Et la déportation.
Donc dès la Seconde Guerre mondiale.
Oui, c'est déjà une action politique. Alors, le foyer de Massy, ça a été relativement clair que c'était un lieu où il y avait des exilés politiques qui étaient reconnus comme tels. À ce moment-là, on était heureux de pouvoir dire que ce sont essentiellement des combattants de la liberté. Et la formule de Serge Gilles, c'était... Vous êtes les premiers ambassadeurs de votre pays.
Quand je suis arrivé en 68, la maîtresse de maison était hollandaise. Il y avait une jeune britannique et un administrateur français qui ensuite ont été progressivement remplacés, en particulier sous l'influence d'André, en embauchant parmi l'équipe dirigeante du centre des réfugiés.
Ça, c'était nouveau ?
C'est absolument nouveau, oui, tout à fait. et des gens qui en avaient toutes les compétences, et en particulier donc Serge Gilles, réfugié politique haïtien, et puis un dominicain, un dirigeant syndicaliste de République dominicaine, Fernando de la Rosa, et puis celle qui deviendra la femme de Serge Gilles, Betty, et l'équipe s'est progressivement enrichie, je dirais, avec des réfugiés.
Au moment où Serge est devenu directeur, on lui avait dit quand il a pris la direction qu'il était le premier non-français et non-protestant à devenir directeur de ce foyer. Alors ça l'a à la fois impressionné, et il était très désireux de faire face à toutes les qualités d'un bon directeur. Et je crois qu'il y est resté jusqu'en 86, au moment où Duvalier est... Ils sont partis dans les deux mois qui ont suivi la chute de Duvalier, lui et sa femme et quelques autres Haïtiens. Alors, il a eu à la fois cette équipe et surtout, les résidents avaient des assemblées générales. On parlait beaucoup. On ne laissait jamais un conflit se développer. Il avait à la fois une gestion très démocratique et très soucieuse de ne pas laisser des conflits ou des grèves. Ça pouvait arriver dans des foyers. On réclamait une meilleure nourriture ou un nettoyage des chambres différents. Bref, il a réussi vraiment à toujours maîtriser les conflits.
À une époque, j'avais une chambre au-dessus de la cafétéria et je dois vous dire que les merengues, je n'en pouvais plus. Et encore maintenant, j'ai des souvenirs traumatisants de musique dansante jusqu'à 2h du matin, alors que moi, je travaillais le matin.
Jeanne Guapigé, votre chambre, elle était où, la première?
Dans ce couloir, la chambre 4. Et j'étais voisin de son frère.
Du frère de Monica?
Frère de Monica. Ouais. Voilà. Et ici, là, on a la buanderie. Il y avait la salle de linge où on changeait les draps toutes les deux semaines. Et puis il y avait un labo photo qui est tout au bout là.
Un labo photo?
Oui, parce qu'il y avait une équipe qui faisait ce genre d'activité. Les photos avec les appareils de l'époque, bien sûr. Voilà, on avait même un petit journal qui était édité sur place.
Est-ce qu'entre vous, vous vous appelez les Simadiens?
Oui, oui, tout à fait, Simadiens. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'à l'époque, les équipes d'animation qui étaient mises en place étaient issues des élections. Les résidents étaient appelés à appeler leurs équipes, les responsables de leurs équipes d'animation. Parce qu'il y avait 5 pôles d'activité d'animation, cafétéria, bibliothèque, ciné-photo, débat et conférences.
Et sport?
Sport, oui, le sport, oui.
Et vous avez participé, l'un ou l'autre, à ces équipes d'animation?
Moi, je suis porte-parole de l'équipe cafétéria, et ensuite j'ai été élu porte-parole du comité de résidents.
Où est-ce qu'on rédigeait le bulletin d'information des résidents?
Alors, la machine était tellement lourde qu'on l'a laissée à l'accueil. Et les gens, quand ils en avaient besoin... Ils allaient là-bas pour le faire. Il y avait la petite pièce où la salle d'Internet actuellement, c'est là-bas qu'il y avait la grosse machine.
C'était une Roneo?
Une Roneo, oui. Et puis il y avait une machine à écrire qui pesait des tonnes. Voilà. Oui, mais je me rappelle quand même, quand j'ai été élu porte-parole, j'ai travaillé d'ailleurs avec... j'ai oublié son nom... Une Argentine qui était dans le couloir là-bas. Mmh. Et on m'avait surnommé l'inspecteur parce qu'on veillait sur la propreté entre nous. Si quelqu'un a fait sa cuisine et qu'il n'a pas passé une éponge, on le rappelle. À chaque fois, on faisait ça. Donc pour que ça puisse rester à un état supportable. Voilà.
Donc, dans vos nombreuses vies, vous avez été inspecteur.
Oui, voilà, entre autres.
Entre autres. Vous avez gardé la casquette?
La casquette, elle est récente. Je ne l'avais pas parce que j'avais beaucoup de cheveux, donc je n'avais pas besoin de casquette. Non, c'est une blague.
Le souvenir que j'en garde maintenant et que j'ai vécu, et avec André, c'est un des meilleurs souvenirs que nous avons gardés. parce que on a rencontré des gens formidables.
Quand vous évoquez le centre de Massy, Geneviève Jacques, quel est le lieu qui vous vient comme ça en tête spontanément?
Le bureau d'André, et qui était un grand bureau. Maintenant, c'est transformé en je sais pas quoi, en un lieu plus collectif. Mais là, c'était le bureau du directeur, qui avait une bibliothèque, et on s'y retrouvait le soir. Et les réfugiés savaient que tant qu'il y avait de la lumière, ils pouvaient venir taper à la porte. Souvent, on travaillait ensemble sur différentes choses. Voilà, on a vécu des moments de paroles authentiques. Vous savez, où des choses essentielles se disent comme ça. Et pour moi, c'est ce lieu-là qui reste le plus important.
C'est la pièce qui est tout en haut de la maison de Fustel de Coulanges, de la vieille maison.
C'est le grand bureau en haut des escaliers, au premier étage.
On avait un genre de passeport, qu'on l'appelait le blue jean. C'est un passeport qui était donné. Je crois que je dois l'avoir, voilà, ici, un titre des voyages.
Donc il est bleu ?
Et que, automatiquement, le jour qu'on l'a eu, ils nous ont dit immédiatement, avec ça, vous ne pouvez pas aller au Chili. Si vous allez au Chili, vous allez être immédiatement mis en prison. Et nous, on ne peut rien faire. Et voilà le certificat aussi qu'on avait, un certificat des réfugiés politiques.
Alors là, vous avez gardé tous vos papiers à Mme Saavedra ?
Oui, voilà. C'est ma carte des travail que je l'ai eue à quelle date ? Dans les années 79. Bon, je garde toujours les papiers. J'héritais sûrement de mon père. Voilà, on ne sait jamais. Il me disait toujours, on ne sait jamais. Las luces y a lo lejos van marcando mi
retorno. La Cimade a Massy, une histoire de refuge.
Con sus pálidos reflejos, con las horas de dolor.
Merci à Monica Chonchol, Michel Evdokimov, Alberte et Serge Gilles, Geneviève Jacques, Sonia Laboureau, Nicolas Nguabigé, Claire-Lise Hott, Hernan Saavedra. Merci aussi à Jean Durin, François et Odile Derouin, Raphaël Flichmann, Claude Germont, Rosa Gutiérrez, Jacques Maury, Bernard Rouvran, Stephen Sefern, Reda, Youssef et Florent. Archives, Amélie Briand-Lejeune, Aurélie Marsay et Gérard Petitjean de la BDIC. Lecture, Christophe Maléa, Malala Tiana Ravelonari. Prise de son, Yvon Turc. Mixage, Bernard Laniel. Un documentaire de Catherine Decopet et Françoise Camard.
Demain, nous poursuivons notre histoire des protestantismes dans la fabrique de l'histoire en nous intéressant à la façon dont les protestants ont écrit leur histoire depuis le milieu du 19e siècle. Ça sera l'occasion de parler de la revue d'histoire du protestantisme qui vient tout juste de paraître. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant tout le temps que vous le souhaitez, puisqu'elle reste désormais en ligne de façon éternelle, si c'est possible. Et puis également, vous pouvez la télécharger pendant un an après sa diffusion, ou encore laisser vos commentaires sur nos pages, ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.